I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust.
Salut Guillaume. Bon,
alors, on va poursuivre sur notre cher Conor McGregor. Déjà, on remercie bien évidemment Tsumé qui est sponsor officiel du podcast La Sueur, la meilleure déco du studio. Tout le monde nous l'envie. Non, on plaisante bien évidemment. En tout cas, non, bon, on est très content d'avoir ce petit broly.
On a quand même sacrément de commentaires. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas mal ce petit broly. Bon, enfin bref.
Oui.
Donc Conor McGregor s'est incliné par TKO à la fin du premier round contre Dustin Poirier sur blessure. Et là, on va se poser la question finalement, quel avenir pour Conor McGregor? Devient-il finalement un problème pour l'UFC? Parce que c'est vrai que là, il y a eu tout cet après-combat qui a été géré d'une manière propre à l'Irlandais. Est-ce qu'on n'en serait pas le générique, Rust?
Absolument, oui, oui.
Soit.
Qu'est-ce qu'on en fait après? La question, ouais, c'est ça. Ben, vous l'aviez déjà évoqué en fait avec Pauly Domso dans le récap et réaction que vous aviez fait. C'est ben déjà, je pense qu'on peut oublier en fait pour un moment les combats pour le titre, parce que même si je crois que c'est Dana White ou non, je sais plus qui disait.
Si
exactement.
C'est Dana White. Dana White qui aimerait faire la tétralogie face à Conor McGregor.
Non, quadrilogie.
Non, tétralogie.
Quadrilogie,
ça n'existe pas. Ouais, mais bon.
Enfin. Ouais, oui, non, mais bien joué, effectivement. Oui. Quadrilatère, mais tétra. Oui, je sais pas, j'en sais rien.
Mais hexagone.
Mais c'est vrai qu'en fait, c'est. Mais il y avait ça, donc le fait que, évidemment, Dan White va milquer le truc jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que, spoiler alert, mais évidemment, personnellement, mon avis sur le sujet, c'est simplement que. Évidemment, non, Conor n'est pas un problème pour l'UFC, c'est juste une vache à lait qu'ils vont traire au maximum et jusque vraiment, il n'ait plus le pouvoir d'attirer les foules, ce qui, je pense, n'arrivera jamais. Donc, en gros, ils le mettront contre des adversaires qui seront peut-être un peu plus prenables désormais, même si, à mon avis, Conor, ça ne lui plaira pas du tout, mais je pense qu'il n'aura pas le choix, parce que si on continue de le mettre contre des gars de l'équipe A et qu'il continue de perdre, ça n'aura plus vraiment d'intérêt, en fait. Enfin, quoi que tu me diras, BJ Penn, c'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps. Donc, en fait, ça se trouve, Conor, ça va peut-être être le premier gars à être sur, je sais pas, 5-6 victoires d'affilée et être toujours en main event de...
Défaite, tu veux dire. Ouais, défaite.
Ouais. Ouais, voilà, défaite, pardon, d'affilée et continuer à être en main event de carte de l'UFC, tu vois. Enfin, donc, non, que Conor n'est pas un problème pour l'UFC, n'est pas devenu un problème. C'est... Il continue à rapporter de l'argent, il continue à rapporter de l'argent jusqu'à probablement la fin de sa carrière à l'UFC. Donc, pour l'UFC, c'est tout bénef, hein. De toute façon, comme on l'avait dit dans les podcasts d'avant, maintenant, avec le nombre de deals qu'a l'UFC et le nombre d'apports au niveau monétaire, enfin financier qu'ils ont, il y a aucun problème, en fait. Enfin, évidemment, ils ont, comment dire, des comptes à rendre, parce que ce soit ESPN ou des actionnaires, bon, bah, probablement, effectivement, qu'il faut quand même qu'ils fassent rentrer un petit peu d'argent, qu'ils fassent des événements à succès. Mais en réalité, maintenant, c'est pas un problème. S'ils font plus des énormes pay-per-view, c'est plus un problème. Donc non, Conor n'est pas un problème pour l'UFC, c'est juste que ben, à quel point est-ce que sa fin de carrière va être triste et sale, quoi. C'est ça la vraie question.
Exactement, parce qu'il y a pas mal de commentaires, donc on lit les commentaires bien évidemment sur nos différents podcasts. D'ailleurs, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours énormément plaisir. C'est vrai qu'il y a, et oui, ça nous aide énormément, il y a pas mal de gens justement qui... Et moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi déjà... J'étais assez triste, mine de rien, par cette fin de combat, parce que sportivement, malgré les ajustements, c'était quand même assez chaud, parce que c'était plus violent que le premier combat. Et finalement, pour Conor, c'est presque mieux. C'est terrible la blessure qu'il a, parce qu'il va être absent pendant de longs mois, mais là, on allait vers un nouveau KO, une nouvelle défaite par KO de Conor McGregor. Et c'est pas une image qu'on a envie de voir de quelqu'un qui était autrefois une superstar. Si vous voulez qu'il se fasse dominer par des Khabib Nurmagomedov, par des gars comme ça. Mais là, on a vraiment l'impression que le sport a évolué sans lui. Parce que c'est quelqu'un, Dustin Poirier, qu'il avait bien battu en 2014. Et là, il s'est fait battre en janvier 2021. Juillet 2021, Dustin a encore accentué son avance et a pu même montrer une nouvelle phase de son jeu qu'il n'avait pas pu montrer, enfin, en tout cas moins, en janvier.
Ouais, mais c'est Daniel Cormier qui a fait un... Honnêtement, je vous conseille, il a fait juste avant la soirée, enfin le combat contre de Conor Dustin, il a fait un espèce de question-réponse, où, d'ailleurs où il était bourré, et mais c'était vraiment très intéressant malgré tout, c'est juste que du coup il était très très fluide et à l'aise, du coup désinhibé. Mais vraiment, je vous conseille d'aller la voir. Alors, comment est-ce qu'on pourrait... Il a un polo gris, voilà. Gris,
oui,
gris,
complètement. Comme et ça. The MacLife a mis a mis toute la vidéo. Le titre, je crois, c'est Drunk Daniel Cormier Previews ouais. UFC 264.
Et vraiment, en fait, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est fascinante en tant que inside, que comment dire, des détails de l'approche d'un combat par un combattant de la trempe de Daniel Cormier, c'est-à-dire qui a connu la pression des vrais grands rendez-vous, qui sait quels sont les ajustements, ce qu'on ressent, par exemple, quand les gens te bouent, etc., te huent. Et vraiment, le question-réponse était fascinant. Et c'est vrai, dans ce question-réponse, d'ailleurs, Daniel Cormier en a profité pour dire qu'effectivement, Conor, jusqu'à la fin de sa carrière, de toute façon, il rapportera, les foules viendront le voir et il continuera d'être vachement polarisant, mais donc de créer énormément d'engouement lorsqu'il y a un événement. Mais c'est aussi Daniel Cormier qui disait dans ce Q&A, en fait, il n'a pas combattu souvent sur les dernières années, Conor McGregor, et parmi ses combats, il y en a même qui ont été hors du MMA. Et du coup, Daniel Cormier disait, ben, par exemple, pour les calf kicks, alors oui, ça fait quelques années déjà qu'ils sont là, mais en fait, il y a eu une vraie accentuation dans leur utilisation à un moment où Conor n'était plus vraiment dans le game, en fait. Ouais. Et du coup, la théorie de Daniel Cormier, c'était de dire, ben, en fait, que ce soit les calf kicks ou plein d'autres ajustements qui se sont faits, comme tu viens de le dire, pendant les dernières années, quand il y a eu vraiment une élévation du niveau encore dans le monde du MMA, ben en fait, Conor n'était plus vraiment dedans. C'est le moment où Conor faisait ses trucs avec Mayweather, c'est le moment où il faisait son truc avec Proper 12, c'est le moment où clairement, il s'était distancié du monde du MMA. Et du coup, comme il n'avait plus cette obsession et cette passion du game du MMA comme quand il était en début de carrière, ben effectivement, il passait probablement plus autant de temps à regarder ce qui se faisait, à regarder les combats, à vivre, respirer et manger MMA. Et du coup, c'est possible effectivement qu'il ait pris énormément de retard sur ce sur quoi il aurait dû garder un œil, quoi, techniquement, etc. Donc c'est ce qu'on craignait, c'est ce qu'on pensait qu'allait se passer, c'est ce qui s'est passé. C'est juste qu'on a un Conor qui est complètement à la ramasse, quoi. Et c'est ça qui est terrible pour les années à venir, c'est que à moins qu'il fasse un truc à la Rocky ou ce qu'on avait suggéré, tu vois, qui pourrait être une solution pour lui, mais où lui-même, il se met dans des situations où là, comme disent souvent les combattants, où il redevient affamé. S'il ne fait pas ça, en fait, on aura une redite de ses derniers combats, tu vois.
Après, même hors d'être affamé, moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est une question, tu vois, de camp d'entraînement, parce que je pense qu'il avait la faim, je pense qu'il voulait être dans ce combat-là, mais le problème, à mon sens, hein, c'est que, tu vois, au niveau de l'organisation de son camp d'entraînement, il est toujours avec les mêmes gars, et c'est toujours des mecs qui sont triés sur le volet que lui connaît. Donc, c'est vrai que quand tu t'entraînes depuis 10 piges avec le même type, qui est dans une catégorie en plus inférieure à la tienne, forcément, un, t'as son timing. Et puis en plus de surcroît, le gars n'a pas le même niveau que toi. Un, tu as son timing. Et deux, c'est vrai que de dire maintenant j'ai tous mes kill shots, j'ai fait que des power shots, je n'ai que des coups puissants que je n'avais pas contre Ned Diaz, c'est forcément parce que tu t'entraînes avec des gars que tu connais par cœur et qui ne sont pas à ton niveau. Alors que tu vois, et il peut avoir la faim dans le sens, tu vois, faire ses 3 entraînements par jour toujours avec ces gars-là, forcément. Ou même, tu vois, quand il avait fait des sparring avec un boxeur, donc pour le premier combat de Dustin Poirier, un mec qu'il avait fait venir à Dubaï, c'était un gars qui n'était pas un boxeur de calibre mondial. Donc forcément, c'est vrai que c'est plus facile pour toi de briller dans ces conditions-là. Mais si tu es quelqu'un qui va je dis n'importe quoi, mais tu vois, tous les jours à SBJ, tu t'entraînes avec tous les mecs qui viennent sur place, qui sont aussi des pros. Ça peut peut-être pas être du top, top niveau, mais c'est quand même des gars qui sont, quand je dis top, top niveau, des mecs qui sont au Bellator, des mecs qui sont dans d'autres organisations. Tu as de nouveaux gars. Et justement, tu t'entraînes avec ton timing, avec ce que tu ressens, avec des gars avec lesquels tu n'as pas développé des automatismes depuis des années et des années. En fait, moi, c'est surtout ça, tu vois, que j'aimerais voir. Parce que vraiment, je pense qu'il avait la faim quand même. Enfin,
honnêtement, je ne sais pas. Même si je suis d'accord avec, avec ce que tu viens de dire, excuse-moi, je crois que je te coupe la parole, mais comme ça, lag un petit peu. Mais en fait, je suis d'accord avec toi en fait, sur le fait que clairement, il navigue dans une eau qu'il connaît. En fait. Enfin, vraiment, il a pied là où il s'entraîne, là où il navigue. Donc forcément, c'est clair qu'au bout d'un moment, on le voit bien de toute façon que ça pose problème. Mais honnêtement, je reste persuadé qu'il n'a plus cette volonté d'être sur le pont H24, de grinder comme le fait un Dustin Poirier, etc. Je le pense. Alors que ce soit la théorie de Fernand Lopez qui est de dire ben, quand tu as atteint un certain niveau de confort, forcément, tu n'as plus la même faim de venir t'entraîner, tu n'as plus la même faim. Et surtout, quand tu as atteint tous tes objectifs, en fait. C'est Polydomso qui est un des premiers, je me souviens, on en avait parlé, et avait dit le problème qui va probablement arriver, c'est que Conor McGregor est un conquérant. C'est-à-dire que quand il a tous ses objectifs qui ont été atteints, en l'occurrence, là, c'est fait. C'est-à-dire qu'il a été champ. Il a mis des KO dans les trois divisions. Il a battu José Aldo en 13 secondes, qui était la légende. Il a fait une masterclass comme on en verra probablement vraiment pas souvent contre Eddie Alvarez, etc. Il a atteint tout ce qu'il voulait atteindre, en fait. Il a eu ses faits d'armes, tout ce qu'il voulait. Donc là, pourquoi est-ce qu'il revient? C'est-à-dire qu'à part par amour du combat, parce que ça, on ne pourra pas lui enlever, c'est un mec qui adore ça, tu vois. Mais à part par amour du combat et juste de se mesurer parce qu'il adore ça, eh ben je pense qu'il n'a juste plus aucun objectif qui véritablement le pousse à constamment essayer de s'améliorer, à venir trois entraînements par jour, etc., à devenir même la meilleure version du combattant enfin, de possible, etc. Je pense vraiment pas, je pense pas qu'il ne l'ait, je pense plus qu'il ne l'ait, ça. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein. Enfin, j'aimerais bien qu'il change, quoi, qu'il change quelque chose. J'aimerais bien, enfin, n'importe quoi. Mais tu vois, hein, je finirais.
Moi, c'est surtout, tu vois, de s'entraîner. En fait, moi, c'est vraiment, je te dis, de s'entraîner ailleurs, parce que même sans avoir la même fin, et où là, je te rejoins, c'est vrai que je pense que aujourd'hui, bah, on le voit mine de rien, il fait son camp d'entraînement à Dubaï, puis en Californie où il fait son propre gym. Il a besoin, il a envie aujourd'hui d'avoir un confort qu'il n'avait pas avant. Mais tu vois, c'est plus un truc qui te permet d'être toujours ancré dans cette réalité. Par exemple, Dustin Poirier aujourd'hui, quand il dit « j'ai envie de monter en welterweight et je pense que ça va se faire un jour », le Dustin Poirier qui dit ça, c'est un Dustin Poirier qui a fait des sparring, de nombreux sparring avec Colby Covington et qui en fait toujours avec Jorge Masvidal. Donc, il sait ce que c'est que de prendre des coups par des welterweight de niveau élite. Et donc, il peut effectivement, quand il dit ça, je pense que tu vois, il y a du vrai derrière parce que c'est quelqu'un qui a goûté à cette réalité-là. Conor McGregor, quand il dit ça, c'est un Conor McGregor qui a fait deux combats donc contre Nate Diaz, puis la victoire contre Donald Cerrone, mais qui ne s'est jamais frotté à des welterweights d'élite pour dire « je vais challenger Kamaru Usman ».
Et puis, il y a un autre truc, en plus, pour faire écho un peu à ce que tu dis, tu vois, c'est je me demande si dans le camp d'entraînement de Conor, alors je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas,
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un espèce de, comme il y avait avec Brock Lesnar, et ça c'est factuel,
oui, comment dire,
c'est Pat Berry qui en avait parlé, le fait que, ben, Brock Lesnar, quand tu sparais avec lui, il ne fallait pas le taper trop fort parce qu'il n'aimait pas ça, en fait. Et ses entraîneurs direct disaient non, tranquille, tranquille, tranquille. Ben, je me demande, alors pas de la même manière, je pense que Conor, lui, s'en fout, mais je me demande, en revanche, de la part des sparring partners, s'il n'y a pas un côté inconscient, c'est-à-dire sans même l'intellectualiser ni le penser, mais ne pas y aller trop fort parce que tu as été choisi par Conor et, entre guillemets, ben, tu n'as pas envie d'abîmer la superstar, tu n'as pas envie de la mettre en colère, tu n'as pas envie de... Et du coup, je me demande si aussi inconsciemment de la part du camp d'entraînement, que ce soit les sparring, les entraîneurs ou quoi que ce soit, il n'y a pas un côté on n'y va pas comme on y aurait été avec quelqu'un d'autre, tu vois. Donc pour les sparring, ça veut dire peut-être ils y vont un peu plus tranquille et ils n'y vont pas pour kill shot ou quoi que ce soit. Pour les entraîneurs, ça peut être quand il y a une remarque ultra incisive et cash et brutale à faire, ben on arrondit un peu plus les angles peut-être. Peut-être qu'on n'y va pas à fond comme on y aurait été avec un autre élève. Et je pense que ça se trouve, c'est peut-être ça aussi qui est destructeur, tu vois. Je sais pas. Mais il y a un truc aussi, moi, qui m'avait un peu inquiété dans le build-up du combat, avant le combat, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que j'attendais d'entendre de la part des différents entraîneurs de Conor, que ce soit Owen Roddy ou John Kavanagh, et j'espérais tellement l'entendre, et je l'ai entendu à aucun moment, et c'est là où je m'étais dit, putain, c'est vraiment, ça part mal, tu vois. Aucun des entraîneurs n'a dit, à un moment donné, là, ça y est, il a retrouvé sa passion, il a retrouvé sa flamme. Maintenant, ça y est, on a vraiment l'impression d'avoir le Conor d'avant qui est possédé, qui pense qu'à ça, qui va regarder des vidéos de gorilles qui se battent pour voir l'efficience des mouvements, machin. Il n'y a aucun d'eux qui a dit ça. Ils étaient juste en mode ah ouais, dis donc là, ça y est, il a pris ça sérieusement, il s'entraîne dur. Et c'est tout. Et pour moi, ouais, ça veut tout dire aussi, en fait. C'est-à-dire que même eux doivent être conscients de ce qui se passe, du fait que ben, voilà, ça c'est en train de décrépir petit à petit. Mais voilà, je pense qu'il y a un espèce, à mon avis, de comment dire, peut-être de fatalisme, tu vois, même de sa propre team, en mode, ben, il paye les factures, clairement, c'est irrégal, et en dehors de la cage, ben, probablement que c'est quelqu'un de très... On sait qu'il aide beaucoup la communauté, qui machin, et tout ça, mais donc je pense qu'il y a un espèce de fatalisme. C'est Conor, il nous aide beaucoup, et c'est notre gars sûr, mais on le sent bien que ben, c'est plus le même, quoi. Ça a l'air délétère comme environnement.
Ouais. Et pour finir à ce sujet-là, il y a bien évidemment ces commentaires d'après-combat qui ne nous ont pas rassurés. On avait fait un podcast là-dessus. Pour une fois, je ne veux pas dire qu'on avait vu juste, mais c'est vrai que c'était des éléments où c'est vrai qu'il y a cette perte de lucidité. En tout cas, on a l'impression, au micro de Joe Rogan, de dire bah, « j'étais en train de lui arracher la tête à Dustin Poirier ». Les leg kicks, j'étais également en train de lui détruire la jambe avec les leg kicks. C'est ce qui est compliqué, c'est que de dire ça devant 20 000 personnes, plus de 2 millions de personnes qui ont acheté le pay-per-view en tout aux États-Unis et en Europe, les gens ont vu le combat, en fait, tout simplement. Et là, je pense, enfin, moi, je sais que tu vois, en tant que déjà, tu vois, j'étais assez triste que ça se termine comme ça. En plus de voir quelqu'un qui réagit de cette manière après ce qui s'est passé, après ce que tout le monde a vu, c'est ben, le combat ne s'est pas passé comme ça, en fait, tout simplement.
Ben, il ne s'est pas passé comme ça, et ben, comme vous l'avez dit dans le récap, ça manque de dignité, c'est clair, mais il y a aussi le fait que ben, sa défaite contre Nate Diaz, il l'a pris avec beaucoup de grâce, ouais. Ben, il était en mode magnifique de la part de Nate Diaz, j'ai merdé, etc. C'est ce qui faisait aussi son attrait et son charme à Conor, c'est qu'il y avait du trash talk, il y avait du machin. Après José Aldo, pareil, malgré le build-up de 6 mois où il l'avait harcelé, etc. Après le combat, il était en mode bah vraiment, enfin oui, j'ai gagné, mais quelle légende, etc. Là, donc tu avais vraiment un côté ce victoire ou défaite, Conor, que c'est quelqu'un qui après reste un peu grand, tu vois. Bah là, clairement, que ce soit pour Khabib ou que ce soit pour Dustin 2 et 3. Ben, après les défaites, il y a vraiment un côté, il ne voit plus la réalité en face, en fait. Et là, encore pire qu'avant, puisque là, il a continué à être extrêmement insultant, il a continué à être véhément, il a continué à vraiment cracher son venin juste après le combat et ensuite, quelques heures après, c'était juste dégueulasse humainement, tu vois. Et ça, il ne l'avait pas avant, cette partie-là. Donc, tu sais, t'as vraiment l'impression qu'il devient une espèce de vieux aigri, en fait. Mais dans le fight game et en l'espace de quelques années, parce que tu sens qu'il lui-même il perd pied, quoi. Enfin...
Exactement. Et donc là, pour la suite, pour Conor McGregor, moi je suis d'avis, tu vois, qui déjà ce qui est bien, mine de rien, c'est qu'il va être mis au repos forcé du fait de sa fracture et qu'il se pose vraiment pour savoir ce qu'il veut faire. Quand je dis ça, c'est soit il ne revient pas. Parce que là, on voit ce que ça donne. De toute façon, l'UFC aujourd'hui, c'est une telle star, Rose vous l'a dit, qui peut être sur des séries de défaites. L'UFC va quand même le mettre en avant. Mais bien évidemment, pour être mis en avant d'un pay-per-view, on ne peut pas le mettre contre un mec random. Donc, il va quand même être contre des gars qui sont très forts. Et je n'ai pas envie de voir Conor McGregor à nouveau dans des situations comme ça. Donc, soit, à mon sens, tu vois, il se pose vraiment, il dit, bah, soit c'est la retraite, ça y est, c'est terminé. Il peut faire énormément d'autres choses. Ou alors, il revient. Mais tu vois, il revient... Sérieusement, mais quand je dis sérieusement, comme un combattant de MMA normal du roster, qui est dans un gym, qui participe à la vie du gym et qui finalement, bah, quand il est là, bah, c'est quelqu'un qui est finalement à sa place et qui ne va pas combattre une fois tous les 2 ans, une fois par an, et où, bah, mine de rien, le sport avance et lui, au contraire, reste un petit peu bloqué à ce qu'il avait fait en 2015. Parce que là on le voyait, on commençait à en parler justement, nous, en off. Tu avais toutes les vidéos du countdown de Dustin Poirier où c'était des images de 2020, de 2019, et Conor McGregor, là, on était obligé de revenir à 6 ans en arrière. Rendez-vous compte, enfin, quand Georges St-Pierre est revenu contre Michael Bisping, il n'y a eu que 4 ans. Que 4 ans entre son dernier combat contre Johnny Hendricks et quand il a pris la ceinture à Michael Bisping. Là, 6 ans à MMA, c'est une éternité. Donc, vous dire que l'UFC est obligé de piocher dans des highlights qui datent d'il y a 6 ans ou plus, c'est énorme. C'est énorme.
Non, c'est super triste. Enfin, c'est effectivement, c'est. Bah oui, on en est là en fait. On en est à ce que le Golden Boy de l'UFC était obligé d'aller piocher littéralement dans son adolescence pour nous rappeler les souvenirs de quand c'était le Conor qu'on espère retrouver un jour, mais probablement faut se faire une raison qu'on ne retrouvera pas, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas plus mal pour une raison, c'est que personnellement, donc je peux parler que pour moi, mais en fait maintenant, si on ne revoit plus jamais Conor, ça me fera moins mal au cœur que s'il était parti à jamais en boxe anglaise. Après son combat contre Alvarez, tu vois.
Complètement.
Là, maintenant, bah, je suis en mode, bon, bah, si on ne le revoit plus jamais en MMA, c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Parce que clairement, il n'y est plus. Alors qu'avant cela, pendant cette période-là d'inactivité où il faisait autre chose, bah, on était vraiment en mode, quel gâchis qu'il se mette à l'anglaise, il faudrait qu'on voit jusqu'où il peut prendre son plein potentiel, remplir son plein potentiel en MMA, etc. Maintenant, ce serait. Voilà. On n'a plus vraiment de... Moi, j'aurais plus de regrets, j'aurais plus de petits pincements au cœur, etc. Maintenant, s'il s'en va définitivement, ben, en tant que fan de MMA, eh ben, c'est plus très grave, en fait.
On
n'a plus cet espoir de le revoir, on n'a plus cet espoir de qu'est-ce qu'il aurait donné, on n'a plus cet espoir de jusqu'où aurait-il pu aller. Maintenant, pour moi, voilà, on peut laisser le bateau filer, tu vois.
Exactement. Et puis surtout, je pense vraiment là, pour le coup, pour tout le monde un petit peu, que ce soit les Francis Ngannou qui ont des ambitions en boxe anglaise et autres athlètes qui commencent à se dire bah, pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça, je pense qu'il y aura vraiment un précédent Conor McGregor qui montre bien que peu importe la richesse que tu as, peu importe le statut que tu as ou peu importe ta grandeur, tu ne peux pas, entre guillemets, jouer avec le MMA et traiter ça comme un hobby comme un autre. Si tu veux, et même si tu as été premier champion quand même de l'histoire de l'organisation, premier combattant, je crois, avoir enchaîné 8 bonus consécutifs, enfin bref, c'est colossal tout ce que Conor McGregor a accompli, tu es obligé de t'astreindre à énormément d'obligations sportives si tu veux performer au plus haut niveau. Et je pense, tu vois, dans les prochaines années, dès qu'il y a n'importe quoi, tu vois, un Adesanya qui va peut-être prendre une pause de 2 ans, quelque chose comme ça, ou même quand John Jones va revenir, il y aura un truc qui... On peut pas traiter ça comme quelque chose d'autre. T'es obligé d'avoir de l'activité. T'es obligé justement ou d'être comme Georges St-Pierre, parce que les gens vont peut-être dire ouais mais Georges St-Pierre il a eu 4 ans d'absence. Georges St-Pierre, quoi qu'il arrive, il s'entraîne 2 fois par jour. Et alors que tout le monde, ça c'est le manager de Georges St-Pierre qui m'a dit ça, tout le monde après un combat prend une semaine de vacances. Georges St-Pierre, il prend le week-end et ensuite il est de retour au gym à s'entraîner. C'est ça la différence. Et Georges St-Pierre n'a jamais de période off et ses 2 entraînements par jour. Il l'est fait au Tristar et avec l'équipe de lutte olympique canadienne. Donc, il est toujours dans les tranchées, tout simplement, JSP.
Oui, et puis en plus de ça, c'est dans ces situations-là et dans ces faits de carrière sur le temps long qu'on voit quel type de combattant est Conor et quel type de combattant est Georges St-Pierre. C'est-à-dire que ben, Georges St-Pierre, c'est un gars, en fait, ce qui kiffe le plus au monde, et là, c'est Georges St-Pierre lui-même qui le dit, c'est s'entraîner. C'est juste devenir l'artiste martial le plus complet possible, la version la plus aboutie de lui-même en tant que combattant. Ça, c'est ça, sa passion à Georges St-Pierre. Et le combat, c'est quelque chose qu'il est obligé de faire parce que ben, c'est ce qui lui permet ensuite de vivre de cette passion-là, de s'entraîner, de devenir la version la plus aboutie de lui-même. Conor, maintenant... entre guillemets, on a l'impression que ben, donc ce qu'il aime, c'est les grands événements, c'est combattre, c'est être dans des trucs comme il est là avec Dustin Poirier, avec Khabib, où ben voilà, c'est vraiment le pinacle de ce qu'on a envie de voir en MMA. Mais je ne pense pas que le Conor d'aujourd'hui 2021, sa véritable passion, ce soit tous les jours, il se lève avec cette espèce d'envie, tu sais, comme un labrador heureux d'aller s'entraîner parce que c'est ce qu'il kiffe le plus au monde, de passer sa journée à essayer de trouver de nouveaux moyens, de mettre un jab un tout petit peu mieux, d'aller chercher comment est-ce qu'on fait cette clé de genou, les Imanari Roll, comment est-ce que lui le fait, wow, Ryan Hall, il fait comme ça, wow, c'est ouf, etc. Ça, c'est Georges St-Pierre, c'est sa vie, il adore, c'est sa passion, c'est sa vie. Conor, maintenant, je pense que c'est... OK, aujourd'hui, j'ai ce meeting-là pour Proper 12. Il faut que je parle de ça, ça, ça. OK, machin. OK, il faut que j'arrive à caler un entraînement ici parce qu'il faut que je m'entraîne. Mais je pense que c'est ça, en fait. Il faut que je m'entraîne. Et je pense que c'est tout simplement pas les mêmes philosophies de vie désormais, quoi. Il a probablement eu un jour cette philosophie de vie-là, Connor, mais je pense qu'il ne l'a plus. Maintenant, je pense que c'est il faut s'entraîner parce que j'adore combattre et il faut que je, quand même que je sois suffisamment en forme et que j'essaie de briller le jour du combat. Mais je pense que c'est presque devenu, je sais pas, j'ai l'impression, une espèce d'astreinte, quoi.
Et voilà, en tout cas, affaire à suivre, mon cher Rust. On reviendra bien évidemment sur le restaurant de la carte très prochainement avec Polydomso. Big shout out, vous le savez. Ah, my sweet pea, my sweet protein. Moins 45% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Et puis là, vous le voyez, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Rust.
À très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.